Je vous salue chacun et chacune. Nous avons, je crois, bien commencé ce culte. C'est un temps vraiment d'adoration. Nous avons proclamé la souveraineté de Dieu, la nécessité de la crainte de son nom. Et je dois dire que chaque fois que je prépare un message, cette chose m'étreint. Des fois un peu fort, je trouve, mais la crainte de Dieu. Une prière, là, tout à l'heure, a dit qu'il fallait que les murailles de Jéricho tombent. Jéricho, c'était vraiment une ville de péché. Il est dit que le séjour y était bon, mais que les sources n'étaient pas pures. Et les murailles de Jéricho, c'est souvent dans nos cœurs qu'elles sont. Même quand on a rencontré le Seigneur, il reste des choses. Ce matin, je voudrais qu'on médite sur le chapitre 12 de l'évangile de Marc. C'est un passage où trois personnages viennent s'adresser à Jésus, deux pour le piéger et le troisième, je le crois, d'une manière plus sincère. Et je voudrais qu'on regarde un peu ces trois personnages. L'un était pharisien, l'autre sadducéen. Et le troisième, il nous est dit un scribe. Bon, mais une attitude différente. Ce sera mon texte de base, nous allons lire aussi quelques autres textes. J'ai un peu beaucoup de lectures ce matin, mais c'est bon, je crois, de lire la parole de Dieu. Donc, dans Marc 12, à partir du verset 13, nous allons lire jusqu'au verset 34. Marc 12, verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de les surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Et ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question, « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu ? Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges, comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer de questions. Nous allons encore lire dans Marc chapitre 7, au verset 20. Marc chapitre 7, au verset 20, il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Encore le psaume 50 à partir du verset 16 jusqu'au 23, psaume 50 verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc ? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Encore Proverbe 18, n'y allez pas, je vous le lis. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Jean 5, encore au verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Un dernier texte, enfin, psaume 18 au verset 26. « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Tous ces textes vont nous servir dans cette méditation. Je voudrais resituer le contexte du premier passage que j'ai lu de Marc 12. C'est la fin du ministère de Jésus. C'est sa montée à Jérusalem où il sait qu'il va être arrêté et souffrir et être condamné et crucifié. Il vient d'entrer dans Jérusalem, ça a été dit dans la prière de Jeannette tout à l'heure. Comme un roi, il est salué comme un roi. Notez quand même, il est attendu, il est célébré parce qu'il est considéré comme le libérateur de l'occupant de Rome. Notons quand même qu'il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Lui, Jésus, connaît son mandat, libérer les captifs, guérir les cœurs brisés par le péché, qui est entré dans l'humanité par le premier homme, et pour cela il vient mourir à la croix, lui le juste pour les injustes. Il est venu démontrer au peuple de Dieu, Israël, que le Dieu qui a transmis la loi de Moïse va plus loin en offrant son Fils pour que la vérité soit connue. Les sacrifices ne peuvent ôter le péché, nous avons à saisir la grâce. Voilà le contexte donc dans lequel se situe ces interrogations qui sont faites à Jésus. L'opposition va grandissante, on le voit à peu près dans tous les évangiles, particulièrement dans l'évangile de Jean, mais là aussi, dans l'évangile de Marc, on voit cette opposition grandissante par rapport à la personne de Jésus de la part des autorités religieuses de l'époque. Ce passage est encore précédé des épisodes suivants, l'épisode du figuier. Jésus, c'est très important cet épisode du figuier, Jésus va sortir, il voit un figuier qui ne donne pas fruit et il maudit ce figuier. Ça annonce déjà ce qui va suivre par rapport à son peuple, qu'il est venu. Il est venu d'abord annoncer le salut au peuple hébreu qui ne l'a pas reçu. Et au figuier, c'est vraiment cette image de cette malédiction qui, pour un temps, assez long d'ailleurs, pèsera sur ce peuple. Et il y a encore, avant le passage que j'ai lu, une question sur l'autorité de Jésus. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Donc, vous voyez, les religieux, face à la personne de Jésus, ont de plus en plus d'opposition. On va essayer de voir pourquoi. J'ai fait ce rappel du contexte pour comprendre la patience de Dieu qui prévient, alerte et veut nous arracher à nos enfermements. Et donc aussi à notre responsabilité lorsque, ayant cru, nous raidissons la nuque. Parce qu'en fait, c'est ça que vivent ces hommes. Ils ont reçu, ils connaissent. Et je crois qu'il y a un parallèle avec nos vies. Nous connaissons pour beaucoup, beaucoup de choses sur l'Écriture. J'encourage ceux qui connaissent pas assez à lire la parole. Mais je sais que beaucoup, je le vois dans des échanges avec les uns et les autres, beaucoup ont beaucoup de connaissances sur l'Écriture. Et les pharisiens, là, ont beaucoup de connaissances sur l'Écriture. Ils connaissent parfaitement la loi de Moïse. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait que cela. Et donc, il y a une grande responsabilité quand on connaît les choses de Dieu. Et notre responsabilité, c'est de s'y soumettre, d'y obéir, d'entrer dans la pratique. Alors ce matin, nous considérons trois attitudes. Celle du pharisien, celle du sadducéen et celle du scribe qui a écouté les discussions. Hein, vous pouvez reprendre le texte. Le troisième, le scribe, il a écouté les discussions qu'il y avait. Et à travers cela, je vous invite à être attentif à la disposition de cœur des uns et des autres. Le pharisien, alors pour rappel, les pharisiens, c'est un des partis religieux très appuyé sur la loi de Moïse, mais pas seulement, et c'est là le problème, mais aussi largement appuyé sur tout un tas de traditions qu'ils ont ajoutées, toutes sortes de commandements humains, va dire Jésus, qui avaient pour but encore de durcir les choses. Un grand formalisme les caractérise en réaction à des dérives de certains vers la culture grecque. C'est le principe d'action et de réaction. Ça, nous devons éveiller. L'Écriture nous enseigne des choses et puis des fois, on y ajoute ou on y retranche. Et nous verrons là, le pharisien, c'est vraiment l'esprit religieux, des rites et des choses comme ça. Mais nous verrons aussi le sadducéen, j'y reviendrai, mais qui nous évoque un peu des libéraux quoi, par rapport à la parole. Ici, leur opposition à Jésus atteint son plus haut niveau. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. On lit souvent ces textes. Vous imaginez un peu l'état du cœur de personnes qui vont voir Jésus. Ils ont déjà mouliné les questions pièges qu'ils vont lui poser. Jésus qui, pendant 3 ans, a fait le bien. C'est l'état du cœur qui m'intéresse. Comment cela est-il possible? Ce qu'ils vont lui dire est vrai. Ils lui disent, nous savons que tu es vrai. Exact. Jésus est vrai. Il est la vérité. Et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Tu ne t'inquiètes de personne. Oui, Jésus ne s'est jamais inquiété de savoir s'il allait plaire ou ne pas plaire. Non pas qu'il cherchait à provoquer, non pas qu'il n'était pas respectueux des personnes, mais il acceptait d'être incompris. Il acceptait de dire des choses. Il acceptait de ne pas se défendre, d'être incompris, d'être calomnié sans se défendre. Ce n'est pas facile. Ce qu'ils disent là de Jésus est exact. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Oh, Jésus ne regarde pas l'apparence des hommes. Les prostituées, les publicains, les pharisiens, à qui il tend la main, Nicodème, puissants, misérables, lui, il les considère de la même manière. Donc, ce qu'ils disent est exact. Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Exact. Il est la parole vivante, il est la parole de Dieu. Rendez-vous compte. Ils viennent piéger Jésus en commençant par ce qu'il faut bien appeler une flatterie. La flatterie, c'est des paroles parfois vraies. Là, il n'y avait que des paroles vraies concernant Jésus. Toutes les paroles qui sont dites là sont véritables. Ça caractérise bien Jésus. Mais un cœur qui est faux. Le cœur est faux. Le texte nous dit Jésus connaissant leur hypocrisie. Et ça, on peut le sentir. L'Esprit de Dieu nous montre. Même parfois, sans connaître Dieu, on sent, on a besoin. C'est pour ça que moi j'attache une très grande importance à rencontrer chacun. Parce que Jésus veut rencontrer chacun. Lorsqu'on est en face d'une personne, Proverbe nous dit « Regarde droit dans les yeux, que tes yeux ne papillonnent pas à droite à gauche. » Ce n'est pas pour rien. Il se passe des choses. Et je crois que le face-à-face est important. Et voilà des hommes qui sont face à Jésus, avec des paroles comme ça. Mais le cœur est vraiment dans la méchanceté. Jésus, connaissant leur hypocrisie, certains textes disent leur méchanceté, leur perversité, dans le texte de Matthieu, va les interpeller. Pourquoi me tentez-vous ? Ce pourquoi me tentez-vous, c'est un dernier appel à la lumière. Arrêtez votre cinéma. Capitulez devant Jésus. Puis vient l'inspiration, la parole de sagesse. Apportez-moi cette pièce. Ça, c'est une révélation de Dieu. La parole de sagesse. De qui est-ce l'effigie ? De César ? Alors, rendez à César et rendez à Dieu. Une parole de sagesse qui tranche des cœurs pervers, des paroles vraies, en une seule parole, il règle le problème. Et il renvoie chacun à sa responsabilité. C'est un avertissement, une alerte dans nos vies. Ils savaient, ils avaient la connaissance. Ils ont vu les miracles. Mais ils ne voulaient pas accepter, reconnaître l'autorité douce, l'autorité d'amour, mais aussi le terrible verdict que la seule personne de Jésus apporte. Tu es pécheur, je suis venu délivrer les pécheurs. Ils ne le supportent pas. Mais je me suis dit, je vais vous dire, ce texte, ces versets m'ont touché au début de semaine, sur ma propre vie. Et je ne vais pas être dans l'ordre, mais comment sont-ils arrivés là ? Je trouverai la clé, au moins une des clés, dans deux versets. Le Marc 7 qu'on a lu, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » Et on est sur un point clé de notre marche chrétienne, frères et sœurs. Il y a des choses qui viennent dans notre cœur, parfois. Il y a des choses qui ne sont pas belles. Et si je dis ça ce matin, c'est parce que je voudrais que le peuple de Dieu, nous soyons fortifiés. Parce que quand ces choses viennent et qu'elles nous souillent, c'est un fait, elles nous souillent. Et le problème, c'est de savoir ce que j'en fais. Est-ce que je garde cette souillure qui va m'anéantir ? Si je la garde et si je la développe et si je la cache ? Où est-ce que je l'amène à celui qui peut purifier mon cœur ? C'est un enjeu, c'est peut-être basique mon message ce matin. Mais franchement, c'est ce qu'il y a sur le cœur, je dirais, d'un berger qui voit un certain nombre de situations, qui dit « c'est pas possible ». Proverbe 18, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Des eaux profondes, ça sort des fois après des méandres et des calculs comme nous le voyons là. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il y a une pureté, il y a la vie. Et nous avons besoin que nos choses profondes soient nettoyées par ça. Alors comment sont-ils arrivés là? Oui, c'est un fait. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Et dans Osée 10, au verset 13, il y a vraiment un verset qui m'a touché. On va le lire, Osée 10. Une invitation que je reprendrai à la fin de ce message. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Car vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Car tu as eu confiance dans ta voix. Manger le fruit du mensonge. Il y a des choses qui sont venues dans notre cœur et au lieu de mâcher la vérité de la parole de Dieu, nous avons cultivé ces choses-là. Et quand quelque chose est cultivé, ça finit par s'enraciner. Et il y a cette expression « défrichez-vous un champ nouveau ». L'année dernière, nous avons défriché quelque chose qui avait été en jardin bien des années avant, mais où l'herbe avait pris, s'était enracinée. Et à un moment, il faut défricher avant de cultiver tout à nouveau. Parce que toutes les racines se sont entremêlées. On ne peut plus s'en sortir. Donc il y a une invitation. Défrichez-vous toutes ces choses qui se sont nouées. Défrichez-vous un champ nouveau. Alors, au niveau pratique et pédagogique, lorsqu'une pensée vient en nous, les pensées, vous savez, toutes celles de la chair, les jalousies, les envies, les meurtres, les mauvaises pensées, la méchanceté. La méchanceté, quand elle se manifeste, c'est qu'il y a longtemps qu'elle a pris racine. Le but, c'est d'apprendre à reconnaître de plus en plus tôt. Et cette pensée, il nous appartient de la juger. Sur quels critères? Sur quels critères? Sur les critères de la parole de Dieu. Pas sur notre philosophie. La juger, cette pensée, au regard de la parole de Dieu, pour savoir si c'est une pensée que nous devons accepter parce qu'elle vient de Dieu, même si elle peut paraître surprenante, ou si c'est une pensée qui vient de l'ennemi, ou si c'est une pensée de l'homme. L'esprit religieux ne va pas accepter ce travail-là. L'esprit religieux va reprendre les paroles de Dieu, certaines paroles de Dieu. Il va utiliser un commandement de Dieu destiné, entre autres, à réguler nos relations et les transforme en un élément pour justifier sa position. Nous avons beaucoup de situations comme ça. Concernant le divorce, les pharisiens posent la question à Jésus, mais Moïse a autorisé le divorce. Ils connaissent la parole. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Puisqu'ils avaient, si vous voulez, utilisé ce commandement qui avait été donné par Dieu, cette autorisation, si j'ose dire, qui a été donnée à Dieu pour un homme, dans certains cas, de répudier sa femme, c'était une mesure qu'aliment de bon ordre, excusez-moi l'expression, devant les excès et les abus, une mesure destinée au bon ordre, et pour que la femme répudiée ait une protection. Eh bien, ces choses-là avaient été détournées pour en faire quelque chose à leur service. Concernant l'aide aux parents aussi. Honore ton père et ta mère, afin que tu aies longue vie. Et vous avez détourné ce commandement en disant, celui qui fait des dons à l'église, on pourrait dire, n'a plus besoin de donner à ses parents. Vous changez ainsi le commandement de Dieu par des commandements d'hommes et vous arrangez à votre sauce. Faisant ainsi, en plus, ils font peser des jougs pesants sur les autres, mais pas sur eux-mêmes. Encore Jésus va dire, vous pratiquez toutes sortes de dîmes. Je pourrais parler de la dîme dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas l'objet ce matin. Vous pratiquez toutes sortes de dîmes, la dîme de la nette, etc. Mais vous oubliez la miséricorde. et la charité. C'est cela qu'il faut pratiquer sans oublier le reste. Donc prenons garde, retenons juste pour le pharisien, attention, quand des paroles, je dis que j'ai été touché par ce texte parce que c'était quelque chose d'un, ma vie, on voit le monde politique, le monde des affaires, toute une séduction, on peut même dire des choses vraies sur une personne. Mais quelle est notre motivation dans le dialogue qui s'instaure? Le flatter pour obtenir quelque chose? Le flatter pour faire entrer dans nos voies? Il y a là un contrôle terrible, quoi. Ce que je voudrais dire, c'est que, avant de connaître le Seigneur, nous avons mangé le fruit de l'iniquité. Et nous sommes sauvés. Mais Dieu veut faire une œuvre. Il veut défricher un champ nouveau. Il veut pouvoir œuvrer, nettoyer, pour que sa parole puisse lever, pousser, que notre intelligence soit renouvelée et que ça s'enracine et que nous prenions de nouveaux réflexes. Mais acceptons, frères et sœurs, c'est pas un travail. Nous aimons dans nos milieux les choses très spectaculaires. Mais ça, je peux vous dire, c'est un travail. Un travail que Dieu fait pour ceux qui acceptent qu'il le fasse. Et c'est un travail qui est long, je crois, qui nous mènera jusqu'à la fin de ce chemin sur terre. Nous n'avons pas atteint le but, mais nous faisons une chose. Regardant en avant, nous courons et nous laissons Dieu nous transformer. Ça demande une intimité. Ça demande pouvoir reconnaître ça devant Dieu. Pas simplement le proclamer, j'ai été comme ça, on peut, c'est pas mal. Mais il y a quand même une intimité qui amène comme un désespoir de nos cœurs quand on découvre tout cela. Mais une parfaite confiance que Dieu peut faire cette transformation. Et c'est terrible parce que souvent ça va être des traits de caractère que nos frères et sœurs voient, perçoivent très bien. Et que nous, à la longue, nous le savons. Mais Seigneur, je viens, j'y arrive pas, mais toi tu vas opérer. Viens défricher ce champ nouveau. Viens défricher mon herbe qui est enracinée, toute mélangée. Viens tracer ton sillon. Retourne. Oui, j'ai mangé des fruits qui m'ont empoisonné. Mais toi maintenant, tu es là. Le Sadducéen, quelques mots sur le Sadducéen. Les Sadducéens étaient vraisemblablement des descendants du souverain. Quand je dis vraisemblablement, il y a un peu de discussion, mais on sent, c'est assez clair quand même dans la Bible quand on voit tous ceux qui ont été dans ce parti-là. Des descendants du souverain sacrificateur Tsadok, qui a été un souverain sacrificateur fidèle à David jusqu'au bout. Et dont la descendance, vous savez, c'est important, a occupé des postes importants dans l'Ancienne Alliance. C'est grosso modo une aristocratie, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que ce parti, parce que, bon, il faut bien voir qu'en Israël, le religieux et le politique étaient très, très mélangés. Hein, c'est une théocratie qui a beaucoup dérivé. Hein. Et donc, ces aristocrates étaient à un moment attirés par la culture grecque. Si vous voulez, on pourrait dire que c'est des libéraux. Vous savez, dans le protestant, il y a eu, depuis la Réforme, il y a eu bien des choses, et puis certains sont devenus libéraux, c'est-à-dire ils deviennent un peu à l'aise par rapport à la parole de Dieu. On prend la discussion remplace l'Esprit Saint. On peut philosopher, on peut prendre à peu près toutes les parties de la parole, en tirer des choses utiles pour la vie, très utiles. Il y a des très très bons principes moraux dans la parole de Dieu, je ne vais pas vous surprendre en disant ça. Il y a même de très très bons principes pour conduire ses affaires. Il y a de très très bons principes pour élever ses enfants. Aucun problème. Sauf que la parole de Dieu, c'est peut-être cela, mais c'est surtout la doctrine de la perdition absolue de l'homme et la doctrine du salut en Jésus-Christ. sans lequel la morale, les bons principes, ils seront mis en œuvre d'une façon pourrie. C'est comme ça. Donc voilà les Sadducéens. Alors ils sont libéraux quant à leur conception de la parole et ce qu'elle peut apporter. Ils sont moins libéraux pour les gens qu'ils dirigent. Hein? Ça c'est... Les autres, il faut qu'ils filent droit quand même. Hein? Alors leur discussion piège, ce que j'appelle la discussion piège avec Jésus, porte sur leur dada. Et leur dada c'est quoi? Ils ne croient pas à la résurrection des morts. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Jésus n'était pas encore ressuscité, etc. Mais le peuple hébreu croyait à la résurrection. Je vous rappelle Abraham, qui croyait que Dieu pouvait ressusciter son fils. Hein, dans Hébreux 11, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et puis dans Romains 4, verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. » Les patriarches croyaient à la résurrection. Donc nos Sadducéens s'étaient déjà écartés. Comment ils ont dérivé de ce sujet-là? Parce que, se rapprochant de la philosophie grecque, ils ont fait comme nous, en France, selon le principe de Descartes, ne reconnaître pour vrai que ce que nous avons démontré nous-mêmes. Et quand on part dans ces chemins-là, ben à un moment, on ne croit plus à la résurrection des morts, et on ne croit plus à la résurrection de Jésus non plus. Et alors, ben nous sommes les plus malheureux des hommes. Voilà le courant libéral. Ces hommes ont dérivé vers la philosophie, la morale, ne retenant donc pour vrai que ce qu'ils avaient démontré eux-mêmes. C'est la libre interprétation des Écritures. Pour nous, soyons attentifs à ne pas mélanger nos raisonnements, nos conceptions à la parole de Dieu, mais à garder une attitude respectueuse. Nous pouvons toujours interroger le Seigneur, mais jamais remettre en cause sa parole et sa souveraineté. Nous pouvons interroger le Seigneur. Je lisais ce matin le psaume 44 dans ma méditation, un psaume des fils de Corée. Un psaume qui dit, mais Seigneur, nos pères nous ont enseigné, comme tu leur avais dit. Ils nous ont rapporté ce qui s'est passé en Égypte, le salut en Égypte. Ils nous ont rapporté comment tu as chassé des nations. C'est extraordinaire. Puis à un moment, il y a pause dans le psaume. Mais maintenant, tu ne sors plus avec nous. Et pourtant, nous sommes restés fidèles. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes livrés comme des brebis, livrés à la boucherie. On a le droit de poser des questions au Seigneur lorsqu'il y a des souffrances, il y a des choses qui durent et on n'en sort pas. On a le droit de poser des questions au Seigneur. Tous les prophètes l'ont fait dans leur détresse parce qu'ils ont eu des moments difficiles. Mais, frères et sœurs, ne mettons pas en cause sa souveraineté. Sinon, nous sommes mal barrés. Et c'est compliqué de revenir. On peut toujours revenir, mais c'est compliqué. Les points communs entre les pharisiens et les sadducéens, les deux sont accrochés à leur pouvoir. Dans les deux cas, ils transforment la parole de Dieu en instrument pour avoir raison. C'est un grand risque aujourd'hui, où l'on prend quelques versets auxquels on s'accroche jusqu'à la hargne. Toute la parole, la totalité de la parole est bonne quand on la prend ensemble pour enseigner, reprendre, consoler, corriger. Pas une seule partie. Frères et sœurs, il y a beaucoup. C'est vrai que dans l'histoire du peuple de Dieu, de l'Église, et j'espère que 2017, nous prendrons un peu de temps pour regarder cette histoire de l'Église, il y a toujours eu, chaque mouvement a redécouvert quelque chose, rejetant l'avant, se trouvant d'ailleurs rejeté souvent par l'après. Il y a eu la réforme, il y a eu tout un débat sur la présence réelle, pas présence réelle, ma position est claire. À la scène, nous faisons mémoire. Hein. Mais il y a une solennité, Dieu opère des choses. Sur le baptême, il y a eu des choses, puis après, on part dans tout un tas d'excès. Sur le Saint-Esprit, il y a eu des choses. Et je crois que le Seigneur nous montrera encore des choses. Mais attention, attention de ne prendre qu'une partie de la parole, qu'un verset, et d'oublier le reste. Je le dis parce que je vois des vies qui sont bloquées parce qu'on s'est accroché à un verset. Soit on ne reconnaît plus les dons, sur la base que les choses passeront, etc. Ou qu'on attache à une chose, je vais prendre la question du baptême du Saint-Esprit, par exemple, que je vis, et qu'elle on a attaché nécessairement et simultanément le parler en langue. Puis on pourrait citer plein d'autres choses. Attention, attention. Et vous savez une chose, c'est que je n'ai pas beaucoup de tentation d'œcuménisme. Mais par contre, prenons toute la parole de Dieu. Parce que le problème des pharisiens, des sadducéens, c'est qu'à un moment, ils ont quitté l'ensemble du conseil de Dieu pour partir sur un truc. Quand vous voyez, quand on regarde comment la Bible nous est parvenue, frères et sœurs, c'est que Dieu a jugé qu'on avait besoin de toute la Bible. En tout cas, je ne prendrai pas la responsabilité d'en enlever une seule page. Le point commun, il discute avec Jésus. Vous savez, il y a dans Job un terme qui est traduit par « discutailler ». Discuter avec Jésus. C'est toujours quelque chose qui m'a écorché l'oreille depuis ma conversion. On discute la parole de Dieu. Écoutez, on peut la lire. Il a demandé qu'elle soit prêchée, annoncée. On peut l'interpréter selon les lois, les règles de l'herméneutique, qu'elle soit sage. Mais discuter, faisons attention. On peut vite. Où est son autorité alors? Il discute, exigeant des miracles. Et finalement se retrouvant pour le faire mourir. Les pharisiens et les sadducéens vont se retrouver là, pour le faire mourir. Parce que ce qui était caché dans leur cœur, c'était quand même de garder leur place. Et là-dessus, ils vont se mettre d'accord, pour faire mourir Jésus. Les uns et les autres, et Jésus va le dire dans Jean 5 que j'ai lu, ils sondent les Écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle, mais Jésus va dire, « Mais vous ne voulez pas venir à moi. » Ce n'est pas les Écritures, ce n'est pas la Bible lue et résonnant dessus qui peuvent sauver et qui peuvent résoudre nos problèmes. Pas possible. C'est quand nous la lisons avec un cœur qui est disposé à être changé, alors, à travers la parole, Jésus-Christ se révèle et je peux m'approcher de lui. Et il nous dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Je m'approcherai de vous. Le danger de s'égarer dans nos pensées, je vous rappelle le Romains 1, verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu ». Je n'avais pas vu cette interprétation, mais je la permets. « Puisqu'ayant connu Dieu », ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, puisqu'ayant connu Dieu, qui mieux que ses responsables religieux connaissait la parole de Dieu, comment Dieu avait agi. Ils ne lui ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dans les deux cas, Jésus va confondre ses détracteurs et retenez ce verset de Proverbe 18. C'est un passage qui me parle beaucoup. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Le Seigneur regarde à nos cœurs. On est dans quel état de cœur? Il va s'adapter. Il a envie d'être bon avec nous. Il a envie, il est droit, lui. Et avec le pervers, tu es pervers. Non, Dieu n'est pas pervers. Dieu n'est pas attiré par le mal. Non. Mais c'est nous qui sommes amorcés par notre propre convoitise. Donc avec le pervers, Dieu n'est pas pervers, mais il agit selon la perversité du pervers. Tu vas dans la perversité, tu es tordu, ça va t'emmener tordu. Il va le mettre, il agit selon sa perversité pour lui mettre devant sa face et lui dire « quitte cette voie-là ». Venons-en maintenant à l'autre scribe. Il ne nous est pas dit s'il était pharisien ou sadducéen ou hérodien, on ne sait pas. Par contre, il nous est dit qu'il a assisté à la discussion et il sait que Jésus a bien répondu, c'est-à-dire qu'il a dit la vérité. Et j'allais dire la vérité vraie. Jésus a dit la vérité. Il nous est dit aussi, ce scribe va s'approcher de Jésus. Il va, on va reprendre le texte. C'est très important. Marc 12. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha. Ce scribe-là, il va s'approcher. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Alors, lui aussi va poser une question à Jésus, mais clairement et sans esprit particulier, il a soif de connaître. Quel est le plus grand commandement? Et Jésus va lui répondre. Si on s'approche de Jésus et qu'on lui pose des questions, en ayant vérifié que notre cœur n'est pas tordu, alors on a... Vous allez me dire, mais non, mon cœur n'est pas tordu. Écoutez, on sait, si on est vraiment, si on prend des temps devant Dieu, en examinant notre vie, je ne vous donne pas un quart d'heure pour que Dieu nous montre ce qu'il en est dans nos cœurs. Si vous y résistez, c'est compliqué. Moi, je n'y arrive pas. Pour ça, des fois, peut-être des fois, je ne reste pas un quart d'heure. Mais si on ne peut pas rester un quart d'heure devant Dieu sans qu'il se passe quelque chose, ce n'est pas possible. Ah, il va peut-être nous parler de choses qu'on n'a pas envie qu'il nous parle. Mais il va nous parler. Et vous savez, il va y avoir quelque chose d'important. Hein. Alors lui aussi va poser une question. Quel est le plus grand commandement? Et Jésus va lui répondre en lui rappelant le premier commandement de la loi de Moïse, c'est-à-dire le premier commandement de l'ancienne alliance, et le commandement introduit par la venue de Jésus. Tu aimeras, écoute d'abord, c'est écoute Israël. Jésus a pris cette partie-là. Écoute Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Première chose. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de l'intérieur vers l'extérieur, de toute ta force. D'accord? Et voici le second qui lui est semblable. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, ce n'est pas dans le décalogue. Ça, c'est Jésus qui amène. Et ce scribe entend de Jésus la raison de venir de Jésus. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et il va recevoir ces paroles précieuses. Et ce scribe va répondre à Jésus. Il a compris, ce scribe. Puisqu'il conclut ce qu'il lui dit. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. » On passe vite sur ce passage. C'est un scribe. C'est quelqu'un enseigné et qui enseigne la loi de Moïse qui dit cela. Frères et sœurs, c'est quelqu'un qui est chargé d'un service dans le sacrifice mosaïque, dans le sacerdoce lévitique, offrir des sacrifices, etc. Et c'est cet homme-là, et là vous voyez qu'il y a une révélation, cet homme-là qui dit oui, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est plus que les sacrifices et les holocaustes. Jésus est venu pour tous. Il ne fait pas d'exception de personne. Il est venu pour les riches, les pauvres, les intellectuels, les pas intellectuels. Les... Ça, c'est des classifications humaines. Il est venu pour tous. Il est venu aussi pour le scribe. Matthieu 13, verset 52, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, le décalogue, c'est toujours d'actualité. Et ton prochain comme toi-même, ça, possible que par Jésus vivant en nous. Alors, à la conclusion de ce message, que nous puissions recevoir. Vous allez me dire, moi ça ne me concernait pas ce matin parce que je suis ni scribe ni sadducéen, d'accord. Mais il y en a peut-être quelques-uns quand même à qui ça peut arriver. Alors Jésus, il ne nous condamne pas, je voudrais insister là-dessus, il ne nous condamne pas, il n'a même pas condamné les scribes, il a pleuré sur Jérusalem. Il leur a parlé durement parce que l'enjeu c'était le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il leur a parlé durement. Mais au niveau personnel, il veut toujours aller les chercher. Et il a été en chercher. Il a été chercher Paul, il a été chercher Nicodème. Il veut tous. Alors, je voudrais qu'on retienne ça. Ce que Dieu nous dit tout le temps, c'est mon fils. Donne-moi ton cœur pour que je puisse le défricher. Mais donne-le-moi. On dit ce que j'ai de meilleur. Je te le donne. C'est bien. C'est bien. Mes frères et sœurs, amenons-lui ce qui a défriché. Reconnaissons la duplicité, la fourberie qui est prête à surgir au fond des cœurs. Reconnaissons ses pensées, ses méandres pour ce qu'ils sont. Le tissu de mensonges que l'ennemi a installé, avec lequel nous avons fonctionné. Cette herbe complètement mélangée. La lumière est venue éclairer tout cela. Et peut-être à un moment, nous avons été lassés et découragés parce que nous avons essayé de nous débarrasser de cela et que nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons emprunté la voie du pharisien, belle façade, paroles flatteuses, masquant nos réelles motivations, mais tout cela n'est que néant et nous le savons. Revenons à l'Éternel, approchons-nous de Jésus. Il aura pitié de nous, il nous purifiera, il nous relèvera. D'autres auront pris la voie du sadducéen, le relativisme et le raisonnement emprunté à la sagesse de ce monde, ne prenant dans la parole que ce qui ne dérange pas et s'accommodant de la pensée du monde au nom de l'équilibre, quittant petit à petit la confiance en Dieu pour se confier dans sa propre sagesse. Frères et sœurs, désespérons de nous-mêmes, mais pas de la puissance de Dieu pour redresser, corriger et délivrer. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la suite et la fin. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes ton peuple, ça a été dit, début de ce culte, Seigneur. Seigneur, je te prie ce matin pour tous ceux et celles d'abord qui t'appartiennent, Seigneur. Ceux et celles, Seigneur, qui ont connu cette lumière venant dans les ténèbres et qui se sont donnés à toi. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui se sont lassés, découragés, parce qu'ils voyaient surgir dans leur cœur. Pour ceux et celles qui, étant partis avec idéalisme, ont été dégoûtés, souvent des autres, et peut-être pas encore d'eux-mêmes. Seigneur, je te prie pour que ce matin, tu viennes, parce qu'il y a une solution, Seigneur, c'est de t'apporter cela, de donner notre cœur avec ses racines et radicelles qui empêchent à ta parole de pénétrer. Alors je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs ce matin, et pour moi-même, Seigneur. Mais je te prie aussi, Seigneur, pour ceux où ce tissu de mensonges, d'orgueil et d'hypocrisie n'a pas encore été déchiré une première fois. Seigneur, viens ce matin. Viens ce matin, Seigneur. Viens ce matin délivrer parce que c'est ton mandat, Seigneur. Tu délivres. Tu délivres les captifs. Viens ouvrir, Seigneur. Viens passer ton scalpel, Seigneur, parce que tu as dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendirait encore, Seigneur. Nous le croyons. Je te prie, Seigneur, pour que tu continues ce travail, pour que, Seigneur, là, tout à l'heure, lorsque nous allons nous rencontrer, partager, Seigneur, nous soyons vrais, comme tu es vrai. Je te bénis, je te rends grâce, Père. Amen.